Bonjour mes frères et sœurs. Sommes-nous dans la joie?
Oui.
Comme si nous sommes un peu timides, il ne fait plus froid comme les jours passés. Donc nous devons être dans l'allégresse. Ok. Merci. Je remercie Dieu qui nous permet à être ici et pour écouter sa voix. Jésus t'aime, il nous aime comme nous sommes. Nous sommes femmes, hommes, jeunes, enfants. Dans nos diverses circonstances. Mais ce matin, Jésus a un message pour tout un chacun de nous. Gloire à son nom. C'est comme si on était dans la barque de ce matin. Okay. Alors, je vais poser un peu une question ici. Y a-t-il des gens qui ont leur téléphone comme moi? Oui? Ok, c'est bon, mais c'est une bonne chose. Ok, je vois aussi Marc qui a son téléphone. Si vous en avez un, je pense que vous avez l'idée combien plusieurs personnes, comme moi, dépendons de ça dans notre vie. Mais je pense que c'est plus pour les jeunes. Je ne sais pas. Mais alors, je vais profiter aussi de ce moment pour que nous puissions mettre en silence, mot de silence, nos téléphones, pour que nous ne soyons pas distraits. Mais ce n'est pas pour cela que je viens de nous demander d'abord de montrer nos téléphones. Mais en parlant toujours de nos téléphones, je me pose souvent la question de savoir si quelle serait mon attitude si il arrivait une fois, ce n'est même pas encore arrivé, ça m'arrivait une fois, en train de rouler, et je dépends de GPS pour me faire, me donner la direction. Quelle sera mon attitude si, au milieu de la route, mon téléphone se décharge? Et je dois aller loin. Moi, j'ai peur, je pense que je serai dans la panique totale. Dans la panique totale. Mais alors, si nous saisissons l'importance de nos téléphones et combien nous dépendons d'eux, alors la question que nous pouvons nous poser ce matin, connaissons-nous l'importance de Jésus dans notre vie? Et combien nous devons dépendre totalement de lui, à tout moment et pour tout. Là, nous voulons un peu lire, j'espère que ce matin, je saurai manipuler ça, je n'ai pas fait l'exercice. Oh, ça se trouve déjà, oh, yeah! Ok, notre texte, alors moi j'en ai ici, et je vais lire. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque étant au milieu de la mer, et Jésus étant seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient le dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parle et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était endurci. Alors, ce passage que nous sommes en train de lire, que nous venons de lire, est écrit par Marc. Mais alors, qui est Marc? Nous voulons un peu savoir qui est Marc. Il est aussi appelé Jean-Marc. Il était un collaborateur de l'apôtre Pierre pour annoncer la parole, la bonne nouvelle aux non-juifs. Et si nous le voulons bien, nous pouvons lire et le trouver dans le livre des Actes des Apôtres. Par exemple, chapitre 12, verset 12, chapitre 12, verset 25 et chapitre 13, verset 5. Marc, comme je viens de lire, est l'auteur de l'évangile selon Marc. Mais à qui il écrit? Parce qu'il écrit ces choses. Ses premiers lecteurs étaient les chrétiens de la communauté de Rome. Mais il avait aussi un but. Pourquoi il les écrit? Cette église était dans la persécution au temps de Néron. Et pendant ce temps, des dizaines de ses membres avaient été mis à mort. Mais on pense que Pierre et Paul étaient mis à mort pendant ce temps. Chaque membre de cette église peut-être avait perdu un parent ou un ami. Et même après la période, le moment de la persécution, chacun s'exposait à être stigmatisé si on apercevait que c'est lui-là vivait avec Christ ou bien connaissait Christ. Ces chrétiens sont passés par des moments très difficiles. Mais nous pouvons nous poser la question alors. Mais ces chrétiens, pourquoi ces souffrances? Alors qu'ils étaient là tout simplement à vivre leur vie dans l'amour les uns les autres et la confiance joyeuse d'être sauvés. Ces chrétiens se sont posés beaucoup de questions. Et comme nous, nous le faisons, quand nous passons par des moments difficiles, compliqués dans notre vie, nous nous posons la question, ou beaucoup de questions. Marc, en écrivant cette lettre qu'il adresse, il veut leur montrer que la persécution est une preuve de la vie que les disciples doivent traverser. Et notre situation est bien différente, peut-être, à ce moment. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas persécuté jusqu'à la mort. Mais peut-être que nous pouvons dire, mais oui, il y a un peu de similarité ou beaucoup de similarité parce que nous souffrons aussi de maladies ou d'autres diverses circonstances qui parfois nous donnent de la mort ou qui nous accablent. C'est pour dire que dans toute vie personnelle ou collective, il est inévitable de se retrouver certains jours complètement désorienté en raison de épreuves ou de mauvaises circonstances. Y a-t-il des gens ici qui sont en train de passer par des moments difficiles qui accablent leur vie? Peut-être que c'est une perte des revenus, la solitude, ou voire même une maladie qui dure de longs moments. Ça a commencé depuis on a prié et on se réveille toujours que la souffrance est encore là. Peut-être l'immigration. On a quitté son pays. Il faut venir ici. Il faut recommencer sa vie encore à zéro. Ça dérange. Qu'est-ce qui est là? Qui me tourmente? Qui te tourmente? Qui nous tourmente? Comme le lecteur de Marc à qui il écrit. Mais nous ne pouvons pas aller loin juste de parler de Marc. Nous avons assez pour le moment parce que nous ne cherchons pas sa biographie, mais c'est juste pour que nous puissions avoir une idée. Mais nous pouvons dire à la fin que nous tous, comme les Romains, nous pouvons nous reconnaître dans ses disciples, dans les passages que nous venons de lire, qui se trouvent au milieu de la mer et qui se battent à ramer contre le vent qui leur était contraire. Mais la mer peut être comparée au monde et le vent à l'épreuve. Mais Marc, pour Marc, les chrétiens de Rome devaient comprendre que l'épreuve des disciples, tout comme leur persécution, n'était pas une fin en soi. Comme notre épreuve, ce n'est pas une fin en soi. Mais que c'était un moyen de les amener à comprendre que Jésus, qui est homme et Dieu, est avec eux. Et que Jésus qui est avec eux le comprend. Et que Jésus qui est avec eux leur parle. Et que Jésus qui est avec eux est entre eux. Et qu'il est le maître de la faim, nous allons le voir, du vent et de la persécution. Il est le maître, il a le pouvoir sur cela. Mais alors, le passage que nous venons de lire est quand même un peu long. Qu'est-ce que nous pouvons retenir après que nous ayons fait l'analyse de ces passages? Ce qui va nous aider comme aide-mémoire, parce que nous nous donnons toujours des aides-mémoire, quand nous allons sortir d'ici, c'est que nous devons comprendre que Jésus est avec nous. Et ce Jésus avec nous nous permet de vaincre les vagues qui tendent à nous submerger. Le contact avec lui dans la prière nous aide à trouver un terrain solide au milieu des sables mouvants. Comme ça, nous n'allons même pas bouger. Le Christ conquérant nous rappelle qu'aucun mal, que ce soit qu'une maladie qui dure, que ce soit la perte d'un être cher qu'on a aimé, que ce soit le déplacement de son pays et que ça nous ronge le cœur. Mais pour Marc, selon le passage que nous venons de lire, le Christ est conquérant et il nous rappelle qu'aucun mal n'est plus fort que lui, notre Christ, Jésus, qui est Dieu. Mais comment Marc démontre tout ça dans notre passage? Il doit avoir un moyen pour le démontrer. Nous allons diviser, quand nous avons fait l'étude, nous avons divisé notre passage en trois parties. Marc 6, 45 jusqu'à 52. Il y a pour la première partie l'urgence qui commence de partir de du verset 45 jusqu'à 47. Et il y a une révélation là-bas aussi, à partir du verset 48 jusqu'à 50. Et il y a l'étonnement que nous allons avoir, qui se trouve au verset 51. Mais parcourons un peu rapidement ces passages. Au verset 45, nous lisons, « Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui renverrait la foule. » Le fait rapporté maintenant s'enchaîne bien avec ce qui précède. Donc, ce qui précède le verset 45. Si Jésus, parce qu'il y avait, Jésus avait nourri, comme nous l'avons lu, Jésus avait nourri 5000 hommes, à part les femmes qui étaient là, qu'on n'avait même pas compté, et les enfants, je ne sais pas pourquoi, mais nous n'entrons pas dans le débat. Alors, le fait rapporté maintenant s'enchaîne bien avec ce qui précède. Si Jésus, par exemple, remonte dans la barque avec les disciples, la foule qui ne veut pas le lâcher va le suivre et le retrouver lorsqu'il débarquera de l'autre côté de la rive. Il lui faut rester pour envoyer la foule, tandis que les disciples vont monter dans la barque et partir seuls. Il doit faire quelque chose parce que la foule est là. Si soulignons alors le choix du verbe « Jésus obligea ses disciples », Jésus obligea ses disciples à Jésus obligea ses disciples, ça continue, à partir sans lui dans la barque. La multiplication des pains se produit entre le maître des disciples. Ce sont des disciples qui étaient là. Ils sont là à distribuer. Et les disciples ont été remerciés par la foule. Oh, merci, merci. Ils pensaient peut-être que ça venait des disciples. Mais bien que c'est Jésus qui avait prié. Alors peut-être que les disciples, quand Jésus les oblige de quitter, les disciples voulaient quand même rester là encore un peu pour se faire féliciter et jouir de l'admiration de cette foule. Et la foule de l'autre côté, selon Jean, chapitre 6, verset 14. Si nous lisons Jean 6, 14 et 16, c'est là que Jean démontre qu'est-ce qui était aussi arrivé. La foule voulait proclamer Jésus comme roi parce qu'ils étaient contents. Ils venaient de manger. Tu conviens à être notre roi, selon Jean, ce qu'il rapporte. Mais Jésus aussitôt le repas de la foule terminé et le corbeille des restes recueillis les oblige à partir. Et lui se charge de renvoyer la foule. Il ne veut pas que ses disciples se laissent emporter par cette manifestation, peut-être. Mais si nous lisons en Marc, au chapitre, ce que nous venons de dire, notre passage, au verset 52, Marc nous parle de quelque chose. Ici, au verset 52, il nous dit que... car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Ça, c'est le cœur des disciples. Ils n'avaient pas compris pourquoi Jésus a multiplié les pains, pourquoi Jésus a nourri la foule, une grande foule. Et Jésus a compris le cœur des disciples. Ils n'aiment pas ça. Oh, la leçon n'a pas été comprise. Et Jésus doit faire quelque chose. Il doit, selon Marc ici, Jésus doit renvoyer les disciples tout de suite. Et parce qu'il doit profiter à leur apprendre des leçons. Au moment où leur mémoire est encore fraîche, parce qu'ils trouvent que ses disciples oublient. Ils ne comprennent même pas. Et c'est ce que nous voyons faire ici Jésus en rapport avec sa mission. L'urgence s'impose. Ici, comme... L'urgence s'impose. Jésus doit faire quelque chose. Et pour lui, il est venu pour que tout le monde soit sauvé. Il ne veut perdre personne. Il doit faire quelque chose. Il doit les enseigner. Il doit avoir l'opportunité pour les enseigner pour qu'ils arrivent à comprendre. Que faisons-nous quand nous voyons une personne qui ne comprend pas? Une personne qui n'a pas encore reçu Christ? Sommes-nous à critiquer? Sommes-nous à nous fâcher? Sommes-nous à nous lasser? Il ne comprend pas depuis longtemps qu'on a commencé à parler. Il est le même. Mais lui, Jésus, voit qu'il doit profiter de ce temps pour parler aux disciples. Et au verset 47, nous voyons, le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Or, une journée qui se termine très, très discrètement. La barque est au milieu de la mer et Jésus est seul sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'il fait là, sur la montagne? Jésus prie. Jésus est en train de prier. Nous parcourons d'abord notre texte et nous arrivons au verset 48. Voyant qu'il se débattait avec leur âme, car le vent leur était contraire, Jésus vient à eux vers la fin de à la quatrième veille, vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser. Jésus rejoint ses siens vers la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire, bon, selon le commentaire, je ne savais pas ça, ça dit ici que c'était entre 3h et 6h du matin. Il faisait sombre. Et Jésus, on nous dit aussi qu'il allait le dépasser. Sans doute, il allait le dépasser pour le précéder au lieu de débarquement et les accueillir à leur arrivée. C'est ça que Jésus avait comme plan. Et au verset 49, quand nous parcourons, en le voyant marcher sur la mer, le disciple crut que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Et au verset 50, car tous l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus leur parla, assurez-vous, en d'autres termes, confiance. Vous n'avez même pas confiance en moi. C'est moi. Je ne sais pas si j'étais en train d'entrer dans la maison et j'y suis Robert. Quoi que je sois un fantôme, ou mes enfants, quoi que je sois un fantôme, je pousserai toujours des cris, comme ses disciples. Ils ne comprenaient pas. Et au verset 50, nous avons déjà vu que ça c'est la révélation, comme nous le voyons là-bas. Jésus parle à eux, c'est moi, ayez confiance en moi, n'ayez pas peur. Et au verset 52, nous voyons, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle de pain, leur cœur était endurci ou aveuglé. Quand le cœur est endurci, le cœur est aveuglé, donc on ne voit pas, on ne comprend pas. On marche comme si on ne voit rien. Nous avons déjà dit que Jésus voulait enseigner des leçons. Mais il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer dans ces passages que nous avons lus. Mais pour nous, nous allons nous concentrer dans avoir trois leçons parmi tant d'autres que Jésus voulait révéler à ses disciples, selon Marc. La première leçon est celle-ci. Dans les épreuves, Jésus nous révèle nos limitations. Nous avons des limitations, mais c'est dans l'épreuve que Jésus nous aide à nous voir. Et deuxième, dans les épreuves, Jésus nous révèle ses bontés. Dans les épreuves, Jésus nous révèle sa force. Voyons un peu la première leçon. Dans les épreuves, Jésus nous révèle nos limitations, nous pouvons aussi dire nos limites. À nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire face aux épreuves. Parce qu'au verset 47, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire et il vient à eux. Oh, pauvre disciple, pauvre moi et toi, quelle journée! Ils se sont retrouvés dans la mer, dans la barque. Et il y avait du vent. Et à cause du vent, ils ne pouvaient même pas, la barque ne pouvait même plus bouger ou aller de l'avant. C'est un retour difficile que les disciples étaient en train de faire. Or, quand on est dans les épreuves, on perd sa joie, on perd même sa force, on est déprimé. Parfois, on pleure. On se cache dans la solitude parce qu'on ne veut pas que les autres me voient que je suis dans la solitude. Je suis dans la dépression totale. Il est intéressant de remarquer que ce genre de traitement, Jésus nous le propose aussi. Ce genre de traitement que nous trouvons sur la mer aux disciples, Jésus nous le propose aussi de temps en temps à nous qui sommes ses disciples. Parce qu'il y a des fois, nous pouvons nous dire, comme les chrétiens de Rome, « Mais je prie, j'ai commencé à prier, mais pourquoi Jésus ne me répond pas ?» Parfois, il nous place dans des épreuves. Et il est bon de nous en souvenir pour ne pas être étonné quand cela nous arrive. Mais c'est là qu'on voit quand même que Jésus fait bien tout ce qu'il a fait. S'il laisse ses disciples ramer presque toute la nuit, c'est pour leur donner une révélation après. Dans toute cette affaire, les disciples n'ont rien demandé. Ils n'avaient pas demandé de quitter à ce moment-là, mais c'est Jésus qui les a obligés. Ils ont été finalement dociles. Ils ont répondu à la demande de Jésus. Mais on nous dit encore que malgré tout cela, ils n'ont pas compris au verset 52. Oh, ça fait peur. Parce que je peux me mettre aussi dans le même problème. Jésus me donne ces épreuves, mais je ne comprends pas. Je ne tire pas de leçons pourquoi il me met dans ces épreuves. Mais je me rappelle d'un moment qui a marqué ma vie. À l'âge de 14 ans, j'avais aidé une femme qui avait accouché dans la forêt, à 2 kilomètres de la maternité. C'était une femme à le voir, forte, courageuse et respectable. Et son village était à 7 kilomètres de l'hôpital. Ce jour-là, il a pris le risque de marcher seul, alors qu'il avait déjà les douleurs d'enfantement. Il faisait déjà tard et sombre, et le bébé n'a pas tardé de naître. Mais naître où? Dans la forêt. Et après, la femme n'avait pas de force de faire quoi que ce soit. Fort heureusement, je suis intervenue quand je suis arrivée sur place, car je venais de mon village aussi, retournant à l'internat où j'étais en train d'étudier. J'ai pris le bébé, couru à l'hôpital, et ça c'est une histoire vraie et vécue. Couru à l'hôpital, et j'ai laissé la maman, je ne pouvais rien faire moi-même non plus. J'ai aidé. Et j'ai compris, quand j'étais en train de penser à ça, cette femme qui était courageuse, cette femme qui avait de l'intelligence, à ce moment-là, était faible. Et elle devait compter sur une autre personne plus forte qui avait un peu de la force, de force pour l'aider. Et ça s'est fait que c'était moi qui étais là, qui pouvais marcher, qui l'avait aidé. Voyons-nous donc, c'est dans telles circonstances, quand nous nous trouvons dans les circonstances, que nous pouvons voir que nous avons des limitations, nous sommes faibles, nous avons besoin d'une autre personne plus forte que nous. Et la femme, c'était les autres. Moi, je ne pouvais pas aller pour le transport. Je n'avais que 14 ans. Il y avait des gens qui sont venus pour la prendre, l'amener à l'hôpital. Et quand je suis retournée à l'hôpital, à la maternité, pour lui rendre visite, elle était très contente, me remerciant. Mais je disais aussi, oh, il ne faut plus faire ça prochainement. Alors, courons un peu pour notre deuxième. Dans les épreuves, Jésus nous révèle ses bontés. Il est là pour nous. Là encore, il y a quelque chose d'immense. Jésus s'est montré le maître de la terre en nourrissant la foule abondante. Il s'est montré le maître de l'eau en marchant au-dessus. Mais Jésus, lui, n'a pas de limite. Parce que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. L'homme ne peut pas flotter sur l'eau. L'homme coule s'il veut marcher sur l'eau. Mais Dieu, qui n'a pas de limites, il peut marcher sur l'eau. Il fait la révélation. Mais par contre, les disciples crient, ne comprennent pas que Jésus pouvait le faire parce que leurs idées les accablaient à voir. Qu'avons-nous? À quoi pensons-nous? Comment est l'état de notre corps, de nos pensées, de nos émotions? On pouvait bien se poser la question, mais qui est-il, Jésus? Et après, Jésus, d'ailleurs, propose une révélation de transcendance et réitère cette affirmation de tendresse qu'on l'a trouvée au début du récit. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Mais c'est moi. Comme si nous pouvons tourner là-bas, c'est moi. C'est un mot traduit du mot grec. Egoemi, le mot employé pour se référer à Yahweh, Dieu. Et c'est Yahweh, je suis. C'est lui qui s'est révélé à Moïse et qui a dit, je suis. Et c'est le même mot que Jésus même a utilisé quand il dit, je suis le chemin, je suis la porte, je suis le bon berger. C'est le même mot qu'il utilise. Donc pour dire que le disciple, quand Jésus a prononcé ces mots, c'est moi, devrait déjà comprendre que Jésus est Dieu. Nous sommes avec Dieu. Mais ils étaient tellement ancrés dans la théorie. Parce qu'ils étaient enseignés. Ils connaissaient bien ces mots en hébreu qui est là. Ils le connaissaient. Et mais ils ne pouvaient pas faire la connexion. Nous lisons la Bible. Comprenons-nous ce que nous lisons ou bien que ça reste, cela reste dans la théorie. Nous pouvons rejoindre le groupe découverte pour apprendre. Nous pouvons rejoindre le groupe maison pour apprendre. Mais évitons que ce que nous apprenons ne reste qu'une théorie sans pratique. Les disciples avaient des cœurs endurcis, aveugles, ils ne peuvent pas comprendre. Connaissons-nous nos besoins? Comprenons-nous réellement qui est Jésus, qui s'est déjà révélé peut-être à nous? Comprenons-nous que nous dépendons totalement de lui dans le bon moment comme dans le mauvais temps? Malheureusement, fort malheureusement, les disciples n'ont pas compris. Leur esprit était encore bouché. L'esprit qui devrait être en contact avec l'esprit. C'est en ce sens que si Jésus a toujours été avec ses disciples, il a aussi toujours été seul parfois dans la prière. Il est resté seul à la montagne. Il ne veut même pas les associer parce que nous lisons beaucoup que les disciples ne pouvaient même pas tenir debout dans la prière. Connaissons-nous des bons moments de prière? Ou bien que la prière est devenue une distraction? Et d'ailleurs, on n'en parle plus. La prière. Parce que nous avons notre force. Oh Seigneur, remplis-nous aussi, ici nous sommes, de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre nos besoins et agir comme il faut. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Que cela ne reste pas une théorie. Quand nous sommes en train de passer par des moments difficiles, mais que cela soit réel, que le Seigneur est là. Et sinon, nous dirons aussi, en Romains 8, versets 35 et 36, « Alors qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim même, ou la nudité ?» ou le péril, ou le paix, et nous pouvons ajouter notre propre liste, selon ce que nous en dirons. Mais dans toutes ces choses, du Paul en Romains, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime et nous fortifie. Marc, c'est ça qu'il voulait, que le disciple puisse comprendre. Le chrétien à qui il écrit, parce que Jésus voulait enseigner cette leçon, la révélation est là pour nous rendre forts. Je suis forte avec Jésus, mais je suis faible quand Jésus n'est pas avec moi. Peut-être que toi, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur. Et il vient de se révéler à toi ce matin, il vient de révéler tes limitations, que ton esprit est encore bouché. Ton esprit est encore endurci. Ton corps est encore endurci. Tu ne comprends rien de Jésus. Et que tu ne peux rien faire sans lui. Peut-être que tu comprends ça. Alors, veux-tu recevoir sa grâce? Parce que Jésus, quand il est avec nous, il est notre force. Quand bien même nous nous sentirons faibles, je n'en peux pas. Mais avec Jésus, nous aurons la force de vaincre nos épreuves. Veux-tu recevoir sa grâce et sa force? Dieu t'aime tant. Il m'aime aussi. Gloire à son nom. Il est à la porte et frappe. Maintenant que tu entends sa voix, tu entends sa voix. Et si tu ouvres, il va entrer chez toi, dans ta barque, là où tu as tes souffrances, tes épreuves. Et il va souper avec toi. Quelle joie! Wow! Oh, Jésus, viens. Ouvrir son cœur, c'est croire que Jésus est ton sauveur. C'est ça, ouvrir ce cœur, parce que c'est ça, la porte, quand la porte du cœur est fermée, on ne peut même pas croire que Jésus peut te sauver. Il est ton sauveur. Mon cher, ma chère, le crois-tu? Alors dis dans ton cœur, oui, je crois. Parce que cette parole silencieuse dit beaucoup à Jésus. C'est comme cela qu'on est né de nouveau. Et c'est comme cela qu'on devient une nouvelle créature. Et après avoir chuchoté, c'est mon « oui, je crois ». Viens, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Tu peux chercher, si tu veux, quelqu'un qui peut prier avec toi. Nous en avons beaucoup ici. Nous avons les anciens, nous avons le pasteur, nous avons Anne, Francine, et nous avons le Regina. Nous avons beaucoup que je peux citer vos noms, et permettez-moi si je n'ai pas cité votre nom, parce que nous tous, nous luttons dans ce monde. Et aussi, on peut rejoindre le groupe de découvertes pour aller et apprendre plus et pour aller en profondeur, parce que la parole de Dieu est parfois, c'est ça l'épée qui nous transforme, qui est là pour nous parler. Et le groupe maison comme Michel a dit, on est là. C'est ce que Jésus nous demande pour que nous soyons des vainqueurs. Et là où nous sommes, n'oublions pas la prière. Soyons forts dans la prière. Jésus a vaincu le monde par la prière. Et le serviteur n'a même pas, qu'est-ce que nous disons? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je ne suis pas plus grande que Jésus. Si je pense que je peux lutter ce monde, je ne saurais pas. Dans les épreuves, Jésus nous révèle sa force. Comme Edmond-moi que nous avons vu, ne soyons pas comme les disciples qui n'avaient pas compris jusque-là, mais ils devaient attendre encore l'arrivée du Saint-Esprit. Parce que c'est là que nous les voyons maintenant devenir très forts, des apôtres de Christ. Nous devons demander l'Esprit Saint
de nous remplir, pour que nous comprenions nos limitations, pour que nous comprenions la révélation de Dieu, pour que nous comprenions qu'est-ce que Jésus nous donne comme force. Jésus avec nous nous permet de vaincre les vagues qui tendent à nous submerger. Le contact avec lui dans la prière nous aide à trouver un terrain solide au milieu de sable mouvant. Le Christ conquérant nous rappelle qu'aucun mal n'est plus fort que nous. Et le verset que nous pouvons amener avec nous, c'est Marc 6, verset 50. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit. Et la suite? Rassurez-vous. Et puis, ne laissons pas ces mots-là. C'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Et puis ça vient, n'ayez pas peur. C'est parce que c'est après avoir compris qui est Jésus que nous allons dépendre de lui totalement, à tout moment et pour tout. Que son nom soit loué et que Jésus nous donne sa grâce. Amen.